Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi. Heureuse de vous retrouver. C'est Marianne Paquette derrière le micro. On est ensemble pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Eh bien, vous dire, et ça ne sera pas très réjouissant, là, on ouvre la semaine quand même avec un sujet, cancer du poumon, qui tue énormément de gens au pays, au Canada. On dit plus de 20 000 personnes qui meurent de ce cancer-là. C'est la principale cause de décès par cancer au pays. Et jusqu'à présent, les différents traitements qui sont sur le marché n'ont pas été très, très concluants. Ce que le grand public ne sait peut-être pas, c'est que tout dernièrement, Santé Canada a approuvé un tout nouveau traitement. Ça s'appelle l'immuno-oncologie. C'est extrêmement révolutionnaire à ce qu'on nous dit. Ça utilise en fait ce traitement notre propre système immunitaire, donc nos petits soldats, comme on les appelle, pour lutter contre les cellules cancéreuses. En deuxième partie d'émission, Dr Marie Florescu, elle qui est hémato-oncologue au CHUM, elle est également chercheure, nous en dira davantage. Elle est très, très enthousiaste elle-même face à ce nouveau traitement. Aussi, vous dire que, et vous l'avez probablement entendu, que ce soit dans les journaux, à la télévision, on parle énormément d'intimidation depuis quelques années. C'est un phénomène, bon, très médiatisé. Parfois, ça a du bon, parfois du moins bon. Je dirais d'un côté plus positif parce que ça a permis dans les dernières années aux décideurs, aux écoles, aux parents d'être plus attentifs aux possibles manifestations d'intimidation dans leur entourage. Et ça, ben, ça contribue à soutenir les victimes d'intimidation, à mieux encadrer les intimidateurs. Mais d'un autre côté, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on en parle bien? Est-ce qu'on offre tous les outils, les bons outils nécessaires aux parents, aux familles qui sont les premiers intervenants auprès de nos enfants? Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice également conférencière, vient tout juste de sortir un livre chez Stanquet. Ça s'appelle « Jeux d'enfants ». Avec un point d'interrogation, l'heure juste sur l'intimidation. On lui parle à l'instant, elle a plusieurs pistes et clés pour nous. Stéphanie Deslauriers, bonjour.
Bonjour Marianne.
Merci d'être avec nous en studio malgré cette neige fort abondante. Un plaisir de vous recevoir. Un livre donc tout nouveau, tout chaud, sorti chez Stanquet qui, je trouve, a un titre assez exact, L'heure juste. Mm-hmm. Et on a l'impression, Stéphanie, d'avoir l'heure juste à travers ce bouquin-là, bien documenté, des outils très, très concrets. Assez confrontant aussi, parce que ça nous amène à l'introspection, c'est-à-dire, oui. Est-ce que moi, j'ai déjà fait de l'intimidation? La réponse, oui, c'est déjà arrivé. Mm-hmm. Est-ce que j'en ai déjà vécu? Oui, en tout cas, du moins dans mon cas, oui, j'en ai déjà vécu, même parfois d'adulte, hein, parce que ça, vous en parlez, l'adulte, des fois, l'intimidation plutôt, des fois, ça vient également de l'adulte envers l'enfant. Ce qui m'amène à cette première question, et vous en parlez dans le livre, est-ce que c'est inévitable?
Je pense que malheureusement, oui. En tout cas, dans le contexte actuel, dans la société actuelle, quand il y a un groupe social, nécessairement, il y a aussi des statuts sociaux. Donc, une personne qui va se démarquer en étant un petit peu plus leader, un autre qui va être un petit peu plus suiveux, un autre qui va être plus à l'écart, et forcément, un qui deviendra peut-être un peu le bouc émissaire. Alors, comme je le dis, pour l'instant, avec ce qu'on a en place, c'est assez inévitable. Puis des fois, je fais le parallèle. Mettons-nous, nous adultes, 40 heures par semaine, dans un contexte assez rigide comme l'est l'école, où est-ce qu'on est ensemble toute la journée, on doit évoluer ensemble, travailler, collaborer, tout ça. Et je pense qu'on va aussi en observer des situations d'intimidation. Puis c'est d'ailleurs le cas parfois en milieu de travail. Donc, malheureusement, ça fait partie de notre vie.
Oui. Bon, aussi, vous poser cette question-là. Qu'est-ce que l'intimidation? Mm-hmm. Qu'est-ce qui n'est pas l'intimidation? Et je trouve que c'est important, vous aborder ce sujet-là assez tôt dans le livre, parce que parfois, les parents ont tendance, parce qu'on en parle beaucoup dans les dernières années, à s'emballer vite. Bon, comment faire la différence entre un conflit mm-hmm. d'enfant, pas banaliser, mais aussi intervenir lorsqu'il y a réellement intimidation?
Bien, en fait, il y a trois critères... Pour l'intimidation, ça va être le déséquilibre de pouvoir. Donc, ce qui peut être, quand on est dans une situation amicale, le pouvoir est assez égalitaire généralement, donc ça ne serait pas un critère. Il y a la chronicité, donc ça revient fois après fois. Ce n'est pas arrivé juste une fois ou deux ou trois dans l'année, c'est récurrent. Et enfin, il y a l'intention de faire du mal, oui. c'est-à-dire où je vois la réaction de ma victime, et je vais quand même continuer, même je vais peut-être en tirer un certain plaisir parce que je vais me sentir en contrôle ou je vais sentir que je me sens un petit peu plus puissant. Alors, ça va être les trois critères là, de l'intimidation.
Donc, j'imagine que lorsqu'on souhaite cibler ou reconnaître l'intimidation, mm-hmm. à savoir si notre enfant vit réellement ce type de situation, on peut poser des questions comme ça. Est-ce que ça fait longtemps qu'il te dit ce genre de mots-là? Dans quelle situation oui. ça se passe? Et ça peut nous aider à déterminer s'il y a intimidation ou pas.
Oui, tout à fait. Puis ce qu'on va proposer aux parents, souvent, ça va être de poser des questions ouvertes. Donc, éviter les questions oui-non, parce que des fois, ben l'enfant va s'arrêter à un oui ou à un non sans élaborer davantage. Donc, pourquoi, comment, où, quand, avec qui, recueillir ces informations-là. Puis des fois, peut-être recadrer avec notre enfant puis dire, bon, mais dans ce si c'est un conflit ou encore, ben oui, ça se peut que cette fois-ci, il y a eu agression verbale, tu t'es fait insulter puis c'est pas acceptable, c'est pas de l'intimidation parce que c'est pas systématiquement, ça t'arrive pas systématiquement de la part de cette personne ou de ce groupe de personnes-là, donc ça permet des fois d'apaiser aussi l'enfant, ça va faire en sorte qu'il va se sentir compris, puis on va pouvoir lui donner des outils en fonction de la situation qu'il vit réellement.
Ah, parce que, si j'entends bien, pas que les parents qui s'emballent, des fois l'enfant aussi va être porté à dire rapidement, c'est de l'intimidation.
Oui, ouais. Bien, ça on va le remarquer surtout quand on va faire de la sensibilisation dans les classes, où est-ce que là on a défini c'était quoi l'intimidation, où on donne des petits exemples, puis après ça l'enfant va aller rapporter, bien là il m'a intimidé, lui il a intimidé un tel, puis là on va recadrer. Bien, c'est pas tout à fait ça. Il y a une bonne intention derrière ça, mais c'est important de bien mettre à jour les connaissances puis la compréhension de l'enfant aussi, là.
Il y a aussi différentes façons de manifester l'intimidation. Souvent, bon, verbalement, mm-hmm. là, ça, on le saisit bien. Oui. Physiquement aussi, oui. Est-ce que ça pourrait se faire de d'autres façons?
Oui, on va parler de l'agression indirecte, la violence indirecte, dont Pierrette Verlan, qui est chercheure à l'Université de Sherbrooke, a grandement documenté. Elle a même fait un programme d'intervention et de prévention à propos de ça. Donc, ça va être tout ce qui est... pardonnez-moi l'expression, bitcher, hein, parler mm-hmm. dans le dos, vouloir isoler quelqu'un, ignorer quelqu'un, on n'invitera pas telle personne à cet anniversaire-là, ou encore partir des rumeurs. Donc, on va dire que c'est indirect parce que c'est plus difficile de cibler qui est l'auteur de cette agression-là. Donc, c'est difficile à cerner. Ça peut être... Là, on en parle beaucoup avec les réseaux sociaux, mais ça, c'est une façon. On peut se créer un faux compte puis, dire n'importe quoi sur Internet. Oui. Donc, ça en fait partie, entre autres, de l'agression indirecte, finalement. Là.
Donc, ça peut se faire aussi par l'écrit, l'intimidation. Et avec cet avènement des réseaux sociaux, des médias sociaux, on le voit de plus en plus, j'imagine.
Oui, tout à fait. Des gens qui vont créer des pages, on déteste telle personne, qui vont... Puis là, les gens sont invités à écrire des méchancetés sur telle personne. Ça peut être par message privé, ça peut être quelqu'un qui va faire un statut Facebook puis visible à tout le monde, qui va déclarer quelque chose sur quelqu'un d'autre. Donc ça, on l'observe de plus en plus. Puis c'est ce qui est pervers, parce qu'avant, on observait l'intimidation, surtout à l'école.
Dans la cour d'école, oui.
Et tu rentres chez toi, puis tu es en sécurité. Puis ce qui fait en sorte que c'était pas moins grave ou moins pire, là. Mais aujourd'hui, tu es chez toi, dans ton salon, confortablement assis avec ta famille, et tu peux recevoir un message d'insulte et être victime d'intimidation, là, dans ton intimité. Donc ça fait en sorte que les jeunes n'ont plus vraiment de refuge ou d'endroit où ils se sentent vraiment bien, puis en sécurité, et physique, mais et psychologique.
Ouais, et... J'imagine aussi que l'intervention est d'autant plus délicate, d'autant bon quand ça vient des médias sociaux, identifier d'où ça vient. Ouais. Bon, c'est encore plus difficile. En effet. Une autre question qui m'a quand même assez confrontée dans ce livre « Jeux d'enfants, l'heure juste sur l'intimidation », c'est à savoir pourquoi ces enfants, les victimes qui vivent de l'intimidation, souvent acceptent ce statut-là, et vous l'expliquez dans le livre.
Oui, bien en fait, ce qu'on va constater d'une part... Ce qui peut expliquer ça, c'est que ça va être des enfants qui ont une faible estime personnelle, donc qui pensent peut-être mériter ça. Qui vont pas s'affirmer, qui vont pas se défendre d'emblée. Des enfants qui, parfois, n'ont pas de cercle d'amis, n'ont pas d'amis proches avec qui ils se sentent bien en sécurité. Donc, des enfants peut-être un petit peu plus isolés. Puis là, on voit un peu le profil de la victime plus introvertie, mais ça peut être aussi, au primaire, des enfants qui vont être agressifs, impulsifs, qui dérangent, qui vont être étiquetés. Puis ce qui est fascinant, c'est que cet enfant-là, au primaire, qui va être une cible, au secondaire, va devenir un risque de devenir un intimidateur. Ça va être plus le profil type de l'intimidateur plutôt que la victime. Puis une victime qui va rester dans ce rôle-là, bien c'est ça, c'est qu'elle n'ira pas nécessairement chercher de l'aide parce que par le passé ou par des observations, elle constate que les adultes ne savent pas vraiment quoi faire lorsque il y a dénonciation. Moi, je ne sais même plus combien de fois j'ai entendu « Ah oui, bien là, on a fait rencontrer la victime puis l'agresseur dans le bureau de la directrice. Mais pourquoi? »
Ah oui, ça ne serait pas une bonne façon de faire.
Ça, ça serait une contre-indication parce qu'on sait qu'il y a déjà un déséquilibre de pouvoir. L'agresseur va savoir que sa victime l'a dénoncé, va avoir un ascendant encore plus sur elle, puis la victime va faire « Oui, oui, non, c'est beau, tout est correct. » Puis ça va continuer, mais sans que les adultes en soient conscients. Puis la victime, quand il va y avoir récidive, bien, n'ira plus le voir parce que la dernière fois, la stratégie n'a pas été efficace, même que ça a aggravé la situation. Donc ça, ça peut être également un élément qui va expliquer pourquoi les jeunes vont rester là-dedans.
Se taisent.
Exactement.
Donc, un des plus beaux cadeaux à faire à notre enfant, c'est l'estime personnelle, la confiance en soi.
Oui, totalement. Puis ça, ça se bâtit dès la petite enfance, dès les premiers moments de vie de notre enfant, via l'attachement, la réponse aux besoins de notre enfant, la chaleur, la sensibilité parentale qu'on va appeler. Et par la suite, bien, donner le droit et l'espace à notre enfant de s'exprimer, de parler de ses émotions, puis que nous, on arrive à les recevoir en tant que parents sans jugement, mais avec de l'ouverture. Donc, quand on crée de l'ouverture dans une relation, bien, on sait que notre enfant va être beaucoup plus porté à venir se confier à nous parce qu'il sait qu'il va avoir une oreille attentive.
Un conseil aussi que vous donnez aux parents, et ça semble tout simple, mais c'est tellement important à répéter, c'est ne vous énervez pas, prenez une grande respiration. Souvent, oui, on a envie, premier réflexe, de hurler, de pleurer, d'appeler nous-mêmes, d'insulter, de se ramener, de redescendre un petit peu sur terre, mais c'est pas évident à faire.
Pas du tout, parce qu'on est dans l'émotion, puis c'est notre enfant qui est en danger, qui est malheureux, qui vit une situation vraiment horrible. Donc, ça vient nous chercher là, au plus profond de nous-mêmes, mais ce qui arrive quand on va s'énerver devant notre enfant, quand il vient nous parler, bien, c'est que lui, à ce moment-là, il avait besoin de réconfort. Puis là, avec cette réaction-là, bien, peut-être que ça l'a encore plus déstabilisé. Puis il y a même certains enfants, des fois, qui vont avoir l'impression de « Oh, OK, je dois minimiser ce que je viens de dire parce que là, mon parent, il semble plus en détresse que moi. » Alors que pour l'instant, bien, il a besoin de sécurité. Fait que les parents, c'est normal qu'on se sente désemparé, mais on va essayer, quand l'enfant nous confie ça, de garder notre calme. Puis après, on va aller se défouler, on va en parler avec le père ou la mère de notre enfant ou on va aller se confier à quelqu'un, mais on essaie le plus possible de rester calme pour le besoin de notre enfant.
Quel conseil on peut donner à notre enfant? Bon, premièrement, est-ce qu'on a conseillé notre enfant en ce sens? Souvent, on entend « ignore-le ».« Ignore-le »,« fais pas attention »,« c'est pas grave ». Est-ce que ça, c'est banaliser la situation, Stéphanie?
Bien, dans certains cas, oui. C'est sûr qu'au début, on peut dire « c'est vrai ». Quand si tu l'ignores puis que la personne voit qu'il n'y a pas le contrôle sur toi, parce qu'en fait, c'est ce que veut un agresseur, sentir qu'il a du pouvoir, bien, dans certains cas, ça peut être un conseil qui va être efficace. Puis dans d'autres, bien, maintenant, on va dire « bien non, là, affirme-toi ». Puis tu peux dire « hey, ça suffit » ou « j'aime pas ça quand tu fais ça, arrête ». Puis on va montrer à notre enfant que c'est pas juste dans les paroles, mais que c'est dans le non-verbal aussi, les épaules relevées, la tête droite, un ton de voix, il y a une posture, il y a tout ça, le message va passer par tout le corps. Donc ça aussi, c'est des stratégies d'affirmation qu'on peut apprendre à notre enfant, puis de dire, mais si ça, ça ne fonctionne pas, bien, reviens m'en parler. Puis à ce moment-là, des fois, bien, on va peut-être prendre des mesures avec la direction de l'école, avec l'enseignante, avec la surveillante qui est là, là, ou l'éducatrice en service de garde. Donc là, à ce moment-là, on peut prendre d'autres moyens. Ceci étant dit, si notre enfant se confie à nous, puis qu'on voit que ça fait longtemps qu'il est vraiment dans une situation d'intimidation, bien, à ce moment-là, rapidement, il faut prendre contact avec l'école pour rétablir une collaboration pour assurer la sécurité de l'enfant, là.
Est-ce que les milieux scolaires savent intervenir dans ces cas-là? Vous donnez cet exemple lors d'une rencontre parent avec des parents où le directeur de cette école vous a dit, j'étais un petit peu obligé là, de faire ce genre de discussion-là suite à cette fameuse loi 56. Mais maintenant, là, est-ce que les écoles, avec justement cette loi-là, parce qu'il y a sûrement des avantages à cette loi-là, est-ce qu'il y a davantage de ressources et de plans d'action qui sont mis de l'avant?
Non, parce que on est en période d'austérité. Donc, il y a eu beaucoup de coupures dans tous les postes de soutien en éducation spécialisée, travail social, psychoéducation, psychologie dans les milieux scolaires. Alors, par exemple, l'école que fréquente le fils de mon conjoint, il y avait 70 heures d'éducation spécialisée. Ça veut dire deux postes en plein en 2014-2015. Et cette année, 2015-2016, il y a 35 heures. Donc, il y a un poste qui a été coupé.
50 %.
Alors non, on n'a pas les ressources. Puis, il y a encore malheureusement des directions qui, peut-être c'est leur ego qui parle, mais qui... Non, moi, ça ne se passe pas dans mon école.
Oui.
Mais ça n'a rien à voir avec la capacité de gestion d'une direction.
La qualité d'une école.
Non, pas du tout. C'est normal. Puis tant qu'on ne sera pas conscient de l'ampleur du phénomène et de la gravité des conséquences, et surtout la gravité des conséquences quand on n'intervient pas, bien, on va continuer de ne pas intervenir et de mal intervenir.
Donc, si de faire rencontrer la victime et l'intimider n'est pas une bonne tactique, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'une direction devrait faire?
Bien, en fait, rapidement, on devrait mettre en place des mesures pour que les deux enfants, ou plus, s'il y en a plus d'impliqués, ne soient pas en contact momentanément. On va s'assurer, donc, par exemple, OK, bien là, toi, t'es victime, la victime, on va te faire sortir un petit 5 minutes avant, à la fin de l'école, pour que tu puisses t'en aller plus tôt, par exemple, ou on va s'assurer que tes parents puissent venir te chercher, tout ça. À court terme, c'est la sécurité. À plus long terme, ce qu'on va faire aussi, il va avoir des conséquences pour les agresseurs, dans le fond, pour les responsabiliser par rapport à leurs gestes. Ceci étant dit, ne donner que des conséquences, suspendre, par exemple, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas efficace. Donc, ce qu'on va dire à plus long terme, est-ce qu'on peut avoir un suivi pour que toi, tu apprennes à t'affirmer puis avoir du contrôle de d'autres façons qu'en intimidant? Puis à la victime aussi, est-ce qu'on peut l'aider à développer une estime personnelle, des habiletés sociale, puis à se créer un petit filet de sûreté autour de lui pour éviter que ça survienne. Donc ça pourrait être des interventions à faire.
Et de lui permettre de vivre des expériences positives.
Oui, tellement, de vivre des réussites, des choses qui sont agréables, puis qui vont faire en sorte qu'il va ressentir à nouveau un sentiment de sécurité à l'école, puis un sentiment d'appartenance.
Ce que vous dites aussi dans le livre, c'est qu'il y a des conséquences à l'intimidation et que la prévention est, comme on le dit, en santé publique, la prévention a bien meilleur goût que la guérison. On fait comment pour prévenir, que ce soit à la maison, que ce soit dans les loisirs de nos enfants, que ce soit entre parents ou adultes et enfants, afin d'instaurer les meilleures relations humaines possibles?
Bien, en fait, ce qu'on sait, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est estime de soi qui se développe dès la petite enfance, le lien d'attachement, laisser une place pour gérer les émotions, tout ce qui est la discipline démocratique ou bienveillante, donc faire réfléchir l'enfant, le responsabiliser, l'inclure dans les solutions. Ça, c'est des choses qui, à la maison, dès la petite enfance, font une différence. À l'école, on va parler de supervision efficace. On va parler de sensibiliser les jeunes, mais les adultes, les profs, à la limite, les chauffeurs d'autobus, parce que c'est là que ça arrive le plus. Parce que les jeunes sont pas fous, ils savent où est-ce que, il y a moins de supervision et tout ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser tout le monde, pour superviser adéquatement, pour que les jeunes développent un sentiment d'appartenance à leur milieu scolaire? Parce que c'est prouvé, quand les jeunes se sentent bien à l'école, ils ont envie de faire partie de ce réseau, de ce groupe social-là, puis de s'y investir positivement. Sinon, nous, en tant que parents, se questionner sur le modèle qu'on donne, comment on interagit avec les autres, comment est-ce qu'on règle nos conflits, comment est-ce qu'on parle des autres quand ils ne sont pas là. Alors, tout ça, ce sont des clés qui semblent bien faciles, mais dans le quotidien, qui sont assez difficiles à mettre en place.
Grand travail que celui d'accompagner des enfants, que ce soit en tant que parent, enseignant ou tout autre adulte signifiant. Et l'importance de véhiculer de la bonne information, vous le faites dans Jeux d'enfants, l'heure juste sur l'intimidation, c'est chez Stanké. Stéphanie Deslauriers, on va donner votre site web ensemble maintenant, très beau titre d'ailleurs, .com. Merci beaucoup, Stéphanie.
Bien, c'est moi qui vous remercie.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Docteur Marie Florescu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hémato-oncologue au CHUM, également chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et là, pour nous parler de ce tout nouveau traitement, l'immuno-oncologie, approuvé dernièrement chez Santé Canada. Tout d'abord, je pense que vous êtes assez contente, enthousiaste face à cette nouvelle.
Ah oui, je suis très enthousiaste, c'est sûr.
Parce que, vous êtes enthousiaste parce qu'il y a de... C'est très positif comme nouvelle, là. C'est des avancées assez concluantes.
Oh oui, oui, c'est vraiment un nouveau mécanisme pour attaquer les cellules tumorales, là. Vraiment, c'est inattendu, puis en même temps, ça donne vraiment des résultats incroyables.
Qu'est-ce que l'immuno-oncologie?
Alors, c'est le traitement du cancer à l'aide ou à partir du système immunitaire du patient. Ça part de la prémisse que dans chacun de nous, et à tout âge, des erreurs surviennent dans les mécanismes de réparation, de reconstitution, et que des débuts de cancer apparaissent. Donc, notre système immunitaire s'en charge, comme c'était une bactérie extérieure. Ceux qui, malgré tout, développent le cancer auraient donc un problème de surveillance immunitaire des cancers.
OK. Bon, l'immuno-oncologie, est-ce que c'est un médicament, c'est un traitement...
Oui, c'est un médicament. Oui, ça va être un médicament administré par les veines sur environ une heure à toutes les deux semaines. La durée idéale de traitement n'est pas connue avec exactitude, mais pour reproduire les résultats des études cliniques, il faut vraiment traiter jusqu'à la progression de la maladie.
Et quels sont les avantages? On ne parle pas de guérison complète, Dr. Florescu.
Non. On parle de, pour l'instant, on parle d'une rémission qui peut être plus prolongée. Alors, en fait, notre système immunitaire, pour répondre à la question, quels sont les avantages, c'est qu'il y a plus de réponses, donc tumorales. Pour certains patients, c'est beaucoup mieux toléré. Et les patients qui répondent ont une durée de réponse qui est beaucoup plus prolongée. Et malgré les traitements subséquents, ils vont avoir une survie globale qui est améliorée. Donc, il y a énormément d'avantages.
Et est-ce que c'est une meilleure qualité de vie? Donc, oui, durée de vie plus prolongée, mais est-ce qu'on le fait avec un mieux-être également?
En fait, comme je dis, il y a moins d'effets secondaires. Fait que la qualité de vie passe aussi par les effets secondaires. Ça passe aussi par la réduction tumorale. Donc, quelqu'un qui a mal parce qu'il y a une tumeur qui pousse sur son os ou qui ronge l'os, s'il y a moins de tumeurs, donc il y a meilleure qualité de vie. Puis les effets secondaires sont complètement différents et il y en a beaucoup, beaucoup moins.
Est-ce que ça s'adresse qu'aux gens qui vivent avec le cancer du poumon pour le moment?
Non. Il y a plusieurs cancers pour lesquels l'immunothérapie fonctionne. Ça a déjà été approuvé pour le mélanome, par exemple, qui est le cancer de la peau. Mais c'est en train de se répandre, en fait, à plusieurs cancers qui semblent répondre par le mécanisme de l'immunothérapie.
Est-ce que ça va révolutionner la façon dont on traite le cancer?
Oui, ça révolutionne. C'est sûr que plutôt que s'attaquer contre les cellules du corps humain en division, principalement les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, les cheveux, les cellules digestives, avec des effets secondaires conséquents, ces traitements font beaucoup moins de dommages en utilisant les missiles disponibles dans le corps humain et qui sont déjà infiltrés partout. Donc, ça permet aussi de surmonter les mécanismes connus de résistance tumorale. Donc, ça donne des réductions tumorales durables et des rémissions plus prolongées, puis en espérant en route vers la guérison.
Oui, oui. Ça. Est-ce qu'il y a certains risques quand même pour les personnes traitées avec l'immunothérapie?
Alors, quand on parle de risque, c'est sûr qu'il n'y a aucun médicament sur la Terre sans effet secondaire, même dans les études avec placebo. Les placebos ont un certain pourcentage d'effets. Dans les effets indésirables, on parle des effets qui sont reliés comme à une infection. Alors, lorsqu'on combat une infection, le système immunitaire est activé, donc il est parfois difficile à arrêter. Donc, la réaction immunitaire contre la tumeur peut donner des rougeurs sur la peau, une inflammation du foie, du côlon, des reins ou du poumon, ou réactiver une maladie auto-immune.
Ah oui.
Donc, ces réactions sont fort heureusement rares, mais doivent être reconnues, traitées précocement et la plupart du temps, elles sont réversibles.
OK. Et maintenant, est-ce que c'est fait pour tous les patients? Je m'explique. Est-ce qu'il faut avoir répondu au départ de façon positive à un premier traitement ou est-ce qu'il y a d'autres critères pour pouvoir bénéficier de l'immunothérapie?
Il y a eu, dans le cas du produit qui nous intéresse, il y a eu des études séparées dans deux sous-groupes de cancers de poumons, les épidermoïdes et les adénocarcinomes, y compris les cancers avec une mutation cible particulière. Et les deux sous-groupes en bénéficiaient de ce traitement comparativement à la chimio standard. Il n'y avait pas de différence entre les hommes, les femmes, ceux qui avaient répondu ou pas à la chimio précédente. Il y avait réellement tout le monde en bénéficiait. Quant à savoir si la tumeur exprime ou pas le PD-L1 qu'on appelle. Là, il y a des études en cours pour mieux comprendre cet aspect-là, mais pour l'instant, c'est vraiment indiqué chez tout le monde, toutes les sortes de cancers de poumons là, non à petites cellules, comme j'ai dit, tous les sous-groupes là, de patients.
Docteur Florescu, est-ce que ça fait longtemps qu'on utilise l'immunothérapie dans les hôpitaux parce que Santé Canada, c'est assez récemment là, qu'ils ont approuvé ce type de traitement?
Ils l'ont approuvé vendredi, pour passer l'eau d'avant. Effectivement, alors non, ça fait pas longtemps qu'on l'utilise. Ça a été sous protocole de recherche, donc jusqu'à dernièrement. La compagnie pharmaceutique de ce produit a un programme d'accès compassionnel, finalement, c'est-à-dire que le médicament est fourni gratuitement jusqu'à ce que le gouvernement décide de rajouter ce médicament sur la liste des médicaments remboursés au Québec.
Quand Santé Canada approuve un genre de traitement comme celui-là, donc assez important, révolutionnaire, comme on le disait, qui change énormément de choses dans le traitement du cancer, il se base sur quel genre de critères, globalement?
Alors, ils ont besoin d'études prospectives de phase 3, comme il y en a eu dans ce cas-ci. C'est-à-dire avec un large échantillonnage de patients. La moitié des patients vont avoir le traitement standard. Dans ce cas-ci, c'était le Taxotac. Et l'autre moitié va avoir donc le traitement en recherche, c'est-à-dire cette fois-ci, c'était le nivolumab, le Opdivo. Et si le bénéfice, il faut qu'il soit satisfaisant. Donc, plus de diminution de la tumeur, une plus longue période sans progression de la maladie, moins d'effets secondaires et une plus longue survie globale malgré les traitements subséquents. Et c'est ce que le nivolumab a fait. Donc, il a reçu l'approbation de Santé Canada. Souvent, cette approbation est précédée par l'approbation de la FDA aux États-Unis, qui, elle, est moins restrictive pour la publication des études. Mm-hmm. Par contre, chaque province s'occupe ensuite du remboursement via le PICO2. Mm-hmm. Donc, c'est pas dit que ça va être remboursé, ça va être disponible dans chaque province.
Mais ce qui est dit, ce que l'on a bien compris, Dr Florescu, c'est que c'est une belle avancée, au fond, du point de vue de la science et pour la santé de tous les Canadiens. Je le rappelle, vous êtes hématologue du côté du CHUM et chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Merci beaucoup.
Bienvenue. Au revoir.
Au revoir. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'est Marianne Paquette au micro qui vous redonne rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.